Vous êtes sur les ondes de Choc FM 105.1 avec Kitry Hervouette. Je suis au téléphone avec un chroniqueur très important pour Choc FM, le professeur Norman Cornette. Professeur, bonjour.
Bonjour, mademoiselle Hervouette, et merci pour cette invitation de Choc FM.
Merci beaucoup de l'avoir accepté. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui nous tient à cœur au Canada et à Toronto. C'est la politique quand même américaine avec Donald Trump, son rapport avec le Mexique, son rapport aussi avec le Canada et l'ALENA, qui est l'accord de libre-échange nord-américain que vous connaissez peut-être sous le nom également de NAFTA. Professeur, est-ce que vous pourriez un peu m'en parler plus de tout ce qui se passe en ce moment?
Oui, avec plaisir. Je crois qu'on a maintenant le modus operandi de Donald Trump dans les rapports avec le Canada et avec le Mexique par sa façon d'aborder le président mexicain. Évidemment, cette question du mur qui le Mexique, c'est un refus global, non seulement du président actuel, mais du président précédent du Mexique, Vicente Fox, qui connaît quand même, c'était un ami proche de George W. Bush, du Parti républicain, et qui connaît Donald Trump, qui l'appelle d'ailleurs par son prénom, et il lui a parlé au téléphone. Mais du part de la classe politique mexicaine, ils opposent un refus global. Eh bien, quelle était la façon de Donald Trump à répliquer? Eh bien, on évoque l'idée d'imposer des taxes de 20%, bien sonnées, sur les produits américains. Alors, on voit que Donald Trump, et ça dans le contexte de l'ALENA, cet accord de libre-échange entre avec les États-Unis et le Canada, par la suite, on a inclus le Mexique, et qui est la plaque tournante, le modèle économique par excellence dans les rapports américains, mexicains et canadiens. Or, là, on voit que Trump, il joue dur. Il est prêt à remettre en question le principe même du libre-échange, et ça au plus grand, ses collègues dans le Sénat, Lindsey Graham et McConnell et d'autres, ils sont pas, et John McCain, l'idée de remettre en question le libre-échange et l'ALENA, eh bien, ça c'est un changement de paradigme, ça. Parce que ça remet en question les assises même du Parti républicain qui a prôné depuis longtemps le libre-échange pour favoriser l'épanouissement des compagnies américaines internationales, entre autres Exxon. Et puis là, on voit que c'est presque machiavélique de la part de Donald Trump. Eh bien, vous voulez avoir accès à notre marché, et il est très conscient en tant qu'homme d'affaires que les États-Unis constituent la société de consommation par excellence et qu'il y a quelques centaines de milliards de dollars d'échanges entre le Mexique et les États-Unis et encore plus entre le Canada et les États-Unis. Donc on voit qu'il va monnayer cette relation des deux pays limitrophes aux États-Unis, soit le Mexique et le Canada. Si vous voulez avoir accès à notre marché, eh bien voici. Et il faut dire aussi que Donald Trump, il n'est pas seulement un président, c'est un personnage. Et il est très conscient de son image, et pour lui c'est beaucoup une question d'image, des apparences, et c'est la raison qu'on le voit depuis sa première semaine, un jour après l'autre, il signe combien de décrets présidentiels, et il demande toujours aux médias d'y être, de filmer, de photographier, de diffuser, lui à la Maison Blanche en train de signer, alors qu'avant, les républicains, le parti républicain, déplorait les décrets présidentiels de Barack Obama, puisque lui n'avait pas la majorité républicaine disponible mm-hmm. pour approuver ses programmes, eh bien Trump il s'y met immédiatement. Mais dans cela, il n'est pas unique. Bill Clinton, jusqu'ici, c'est Bill Clinton, le démocrate, qui a signé le plus grand nombre de décrets présidentiels. Toujours est-il, par ce moyen-là, Trump communique, mais clairement, que son approche aux relations avec le Mexique, avec le Canada, c'est une approche magistrale. Moi, j'ai le gros bout du bâton et j'entends m'en servir. Vous voulez avoir une relation avec nous? Eh bien, voici le coup. Alors, le président mexicain n'avait pas le choix. S'il se présentait à Washington, c'était en tant que quêteur, presque une humiliation. Donc, lui qui a tant perdu quand il a reçu Trump au mois d'août dernier, lors de la campagne présidentielle, il pouvait pas se permettre une telle humiliation. Cette fois-ci, aller à Washington en quêtant auprès de Donald Trump. Mais là, on voit aussi que quand Trump dit qu'il veut renégocier avec le Canada et l'ALENA, on voit très bien le modus operandi. Et ce qui est plus important, ce n'est pas pour rien que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a convoqué son cabinet à Calgary. Et ça, justement, mine de rien, ça coïncidait avec l'annonce de l'oléoduc Keystone que Barack Obama, et ça c'est une entente avec la compagnie Trans-Canada, la compagnie canadienne, eh bien, mine de rien, Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, et tout son cabinet sont rassemblés à Calgary et ils disent immédiatement, lors de l'annonce, on l'appuie. Et c'est d'autant plus facile de le dire maintenant puisque Stéphane Dion ne fait plus partie du cabinet de Justin Trudeau. Or, c'était Stéphane Dion qui avait négocié, mais de façon rigoureuse, toutes les ententes sur les changements climatiques, sur les questions d'environnement, écologique, eh bien là, il n'y fait plus partie. Et immédiatement, le gouvernement du Canada a dit « Oui, nous, on est partant avec l'oléoduc ». Et le prix politique pour Justin Trudeau, il a bien calculé. Parce que l'oléoduc débute à Hardesty, en Alberta, qui n'est pas si loin que ça, quand même, de la frontière américaine. Donc, ça va offenser moins de gens que si ça faisait tout un long trajet sur le territoire canadien. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas sans des risques. Pas plus tard que le lendemain du décret présidentiel pour l'oléoduc Keystone qui relie le Canada aux États-Unis, eh bien, il y a eu une fuite dans l'oléoduc en Iowa. Alors, et c'est là où les autochtones, avec raison, et ceux et celles qui militent pour les questions écologiques, ils sonnent l'alarme. Mais quand il y a une fuite comme cela, c'est toute la nappe phréatique
qui
est en jeu. Mmh. Et là, les autochtones dans l'Alberta, eh bien, va-t-on faire fi de nos droits? Il faut connaître l'histoire du Parti libéral du Canada vis-à-vis de l'Alberta. Justin Trudeau a beaucoup appris des erreurs de son père, Pierre, qui avait aliéné l'Ouest canadien, en point tel que ça a donné naissance au Reform Party, ensuite Canadian Alliance, ensuite le Parti conservateur, et qui a donné le pouvoir à Stephen Harper et les conservateurs dont la base est nulle part ailleurs que Calgary. Donc, c'était très stratégique de la part de Justin Trudeau. de faire cela, d'autant plus, et je le sais parce que on m'invite à l'Université de Calgary, à l'Université de l'Alberta. L'Alberta, maintenant, avec la chute dans le prix du pétrole, qu'on est une vraiment, là, il y a le chômage, il y a une crise économique, financière. Donc, on supplie le gouvernement fédéral de faire des ententes avec les Américains. Et vous comprenez bien qu'il ne veut pas répéter l'erreur de son père, que les gens de l'Alberta, de l'Ouest canadien, ils disaient, mais le gouvernement fédéral, ce n'est que les gens de l'Ontario, de Toronto et les gens du Québec et de Montréal qui mènent la barque. Et puis, ils se fichent de nos intérêts dans l'Ouest canadien. Mais ça, on ne peut plus le faire au Canada à cause du changement du poids démographique. L'Ouest canadien, eh bien là, il faut absolument attirer l'électorat dans l'Ouest canadien pour pouvoir accéder au pouvoir du gouvernement fédéral. Et je tiens à souligner nouvel ambassadeur du Canada aux États-Unis, eh bien c'est quelqu'un de l'Ontario, de Toronto, David McNaughton, et mine de rien, c'est un grand homme d'affaires, un homme qui s'implique également sur le plan culturel, North York Hospital à Toronto, TIFF, qui est le grand festival du cinéma, il est impliqué dans cela, TV Ontario, alors il est conscient de l'aspect médiatique, mais c'est avant tout un homme d'affaires et qui a dit d'emblée, tout comme le Premier ministre, nous on va collaborer, on est prêt même à renégocier l'ALENA.
Oui, mais vous pensez pas que ça va être en défaveur du Canada parce que cette renégociation, tout va être en Donald Trump, il va vouloir que tout soit en faveur des États-Unis et que ça soit quand même beaucoup plus en défaveur du Mexique et du Canada, l'ALENA.
Oui, mais l'ALENA, il semble, quand je dis que ça semble être son modus operandi, c'est que Trump, et c'est un homme d'affaires, aguerri, vétéran,
oui,
hein, donc il sait, le Canada veut et a absolument besoin du marché américain. On fait quand même, nous sommes le plus grand partenaire économique des États-Unis, et cela sans exception. Alors, David McNaughton, Justin Trudeau, ils savent très bien qu'il faut composer avec Donald Trump.
Pourtant,
il faut composer avec alors, on voit que Trump, il veut des rapports de force. Et ça, au prix même du principe du libre-échange et du traité l'ALENA.
Mais donc, moi, c'est, je sais pas si vous avez considéré ça un peu comme négatif, mais je me dis donc, le Canada va négocier jusqu'à quel niveau? Parce que c'est pour être complètement, ça serait quand même pas bien que le Canada s'abaisse. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, oui, et c'est là où, voyez-vous, Trump a toute fin pratique à livrer un ultimatum au président mexicain. Et c'est pour cela que les rapports de force sont tendus là maintenant.
Oui, mais là il le fait quand même. Je veux dire, il est quand même. Le problème, c'est que j'ai l'impression que Trump, c'est-à-dire qu'il écoute personne, et dans le sens où se fâcher quand même avec des pays comme le Mexique, c'est quand même pas très bon pour lui, parce que les États-Unis font quand même aussi beaucoup d'affaires avec les Mexicains.
Ah, tout à fait, et c'est pour cela que vous avez entièrement raison, mademoiselle Herbouët. Et c'est la raison que ses collègues au Sénat et à la Chambre des représentants, eux, ils n'ont pas la même approche. On est voisins. Il faut favoriser des bonnes relations avec ses voisins. Et donc, il y a cela, mais il est très important de savoir que Trump, il a dit, et je souligne l'oléoduc avec Justin Trudeau, David McNaughton, l'Alberta, Calgary, d'ailleurs le maire de Calgary qui était enchanté de tout cela. Trump est en train de construire ce que moi j'appelle une pétrocratie américaine. Parce que quand vous regardez le trajet de cet oléoduc Keystone, eh bien, où ça aboutit? Justement dans le territoire, dans les raffineries du Texas, et ça passe, il y a également un oléoduc qui passe par l'Oklahoma, mais qui fait partie du cabinet Trump? Rex Tillerson, l'ancien PDG de Exxon. Rick Perry, l'ancien gouverneur du Texas. Scott Pruitt, qui était le ministre de justice dans l'Oklahoma. Alors, on voit très bien la stratégie de Trump, c'est qu'en quelque sorte, il répète ce qu'avait fait George W. Bush et avec Halliburton, une autre grande compagnie pétrolière dont le siège social, c'est au Texas. Alors, on voit que tout ça, c'est justement pour reconstruire et même renforcer cette pétrocratie américaine, comme je l'appelle.
Au final, on se dit quand même que il a pas eu le vote populaire, Donald Trump. Donc les gens sont quand même très mécontents. On a vu des manifestations pour le droit des femmes le week-end dernier. On se dit quand même que les Américains, on les voit quand même. Je sais que nous en France, on fait beaucoup de manifestations. Les Américains en font moins, mais là quand même, ils en ont fait une énorme dans plusieurs villes, que ce soit à Washington, New York, Los Angeles, Philadelphie. On se dit qu'ils vont aller de plus en plus dans la rue et que ça peut lui causer tort. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait revenir en arrière sur certaines de ses décisions, Donald Trump?
Mais là, la question est bonne, mademoiselle Hervouette. Aujourd'hui même, il y a à Washington la marche pour la vie, la marche pro-vie, et qui fait un trajet qui aboutit à la Cour suprême, et pour cause. Et je tiens à souligner, c'est sans précédent dans l'histoire depuis le jugement Roe versus Wade qui a autorisé, qui a permis les avortements. Eh bien, le vice-président Mike Pence lui-même va s'adresser à la foule pro-vie, donc anti-avortement, et pour, aux yeux de bien des femmes américaines, mais c'est une hérésie. C'est une hérésie contre les droits de la femme, les droits du corps de la femme.
On a l'impression
le vice-président donne son approbation. Et c'était connu en tant que gouverneur de l'Indiana. Lui était c'est lui qui a coupé le financement. Alors, et en plus, Kellyanne Conway, qui est le bras droit de Donald Trump, elle aussi, elle va prendre la parole. Et pourquoi est-ce qu'ils aboutissent à la Cour suprême? Parce que la semaine prochaine, Donald Trump va nommer à la Cour suprême un nouveau juge pour remplacer Antonin Scalia, qui était lui qui disait il faut renverser la décision Roe versus Wade. Et Trump a promis qu'il va nommer un juge qui est pro-vie, comme la manifestation aujourd'hui. Alors, vous avez raison de dire, oui, on peut renverser des choses. Et Donald Trump est prêt à mettre en doute l'ALENA, tout comme mettre en doute Roe versus Wade, tout comme mettre en doute les droits à l'avortement, les droits de la femme sur son propre corps. Si c'est, voyez-vous, c'est pour ça que je dis c'est machiavélique. C'est que vraiment, il est prêt à monnayer ces questions à son propre profit.
Merci beaucoup, professeur, pour cette intervention sur Donald Trump, ses relations avec le Mexique, les relations également avec le Canada et cette peut-être potentielle renégociation de l'ALENA. Merci beaucoup, professeur Cornette.
Mais avec grand plaisir. Et je termine en soulignant ce que disait le président Trump cette semaine, mercredi dernier. La plus grande erreur des États-Unis en Irak, c'était de ne pas prendre le contrôle de toutes les ressources pétrolières en Irak. Donc, c'est à suivre cette, il est en train de construire cette pétrocratie américaine et il demande, voire exige que le Canada participe avec l'oléoduc Keystone.
Merci beaucoup, professeur. Et je pense que de toute façon, on en reparlera sur les ondes de Choc FM avec vous parce que c'est un dossier qui n'est pas terminé.
Loin de là. Merci à vous.